une des choses qui démarque notre Dieu de tous les autres dieux qui sont adorés dans le monde et dans l'histoire est que notre Dieu connaît l'avenir. Il sait ce qui va se passer. Alors ça nous parle de son omniscience, c'est vrai que Dieu sait tout, donc il connaît le présent, il connaît le passé, il connaît l'avenir, il sait tout. Mais il sait aussi dire ce qui va se passer à l'avenir parce qu'il maîtrise l'avenir. Quel réconfort pour nous, nous qui vivons dans des temps troublés. Je pense que c'est normal de ne pas nous sentir tout à fait à l'aise, pas tout à fait en paix, le monde n'est pas paisible, nous ne sommes pas en paix. Dans ce sens, la vie peut être troublée, difficile, mais quel réconfort de savoir que Dieu maîtrise l'avenir. Le Seigneur, parlant par le prophète Ésaïe, dans l'Ancien Testament, montre cette différence qu'il y a entre lui et les idoles. Regardez ces versets qui seront affichés, qui se trouvent dans Ésaïe. Je suis en train de lire Ésaïe pour le moment et c'est vraiment très très marquant, très très frappant. Combien de fois Dieu dit qu'il annonce l'avenir ? Il dit aux idoles, « Alors révélez ce qui arrivera plus tard. Nous saurons alors que vous êtes des dieux. » Et puis au chapitre 48, versets 3 et 5, il dit ceci, « Depuis longtemps j'ai révélé les premiers événements. Ils sont sortis de ma bouche et je les ai annoncés. Soudain j'ai agi et ils se sont produits. Je t'ai révélé depuis longtemps ces événements. Je te les ai annoncés avant qu'ils ne se produisent, afin que tu ne dises pas, c'est mon idole qui les a faits. » Vous voyez la différence ? Dieu annonce ces choses à l'avance parce qu'il va les accomplir. Et il sait ce qui vient parce qu'il n'est pas une idole, il est le vrai Dieu, le Dieu vivant, le Dieu tout-puissant. Alors avant d'aller plus loin, reconnaissons cela. Dieu connaît l'avenir et il révèle l'avenir. Il est le seul qui puisse le faire de manière sûre et vraie. Dans ce trimestre, nous sommes en train de regarder à l'avenir parce que nous considérons le retour de Jésus-Christ qu'il a annoncé, qu'il a révélé. Aujourd'hui, nous allons le faire en pensant au figuier. Et nous allons regarder ce matin, avec Jésus, des paroles qu'il a dites qui concernent les signes à venir. Mais avant vraiment d'entrer dans le sujet, je voudrais poser la question, pourquoi ? Pourquoi révèle-t-il ces choses ? C'est formidable que Dieu sait toutes choses. C'est vrai que ça révèle sa maîtrise de l'histoire quand il annonce des choses à l'avance. Mais est-ce qu'il y a plus que ça ? Est-ce qu'il y a plus que simplement l'annoncer parce qu'il sait ? Eh bien oui. Je pense qu'il veut nous permettre de ne pas être emportés par la peur. Il veut que nous soyons différents en tant qu'Église des mouvements sectaires. Vous savez que les mouvements sectaires sont souvent des mouvements qui jouent sur la peur de leurs adeptes. Et qui leur disent, attention, attention, ils veulent créer de la peur pour pousser les gens à se couper des autres et à vivre ensemble en communauté en attendant la fin, mais un peu coupés du monde. Mais Jésus veut nous permettre de ne pas être dans la peur apocalyptique. Mais deuxièmement, je pense que Jésus révèle cela pour nous avertir. Il veut nous garder en éveil, un éveil spirituel. Et donc on comprend que la révélation de ces choses, les choses qui sont dites à l'avance par Jésus par rapport à l'avenir, sont écrites pas pour notre intelligence, mais pour notre vigilance. Ce n'est pas simplement pour qu'on soit moins curieux, qu'on sache maintenant, je sais mieux que les autres, mais c'est pour que nous soyons avertis et sages dans le temps présent, que nous ayons plein de foi en Christ. Dans le texte que nous allons lire maintenant, c'est dans Marc 13. Marc 13. On va lire tout le chapitre, mais juste au verset 23 pour commencer, pour comprendre cela. Il est dit au verset 23 de Marc 13. « Soyez sur vos gardes, je vous ai tout annoncé d'avance. » Un petit aperçu là. Pourquoi est-ce que Jésus révèle cela à l'avance ? Pour qu'on soit sur nos gardes. Alors la lecture de ce matin pourrait nous bouleverser, elle m'a bouleversé en l'étudiant cette semaine. Peut-être que vous allez changer d'avis. Dieu fait des miracles encore aujourd'hui. Alors peut-être que ça va vous choquer, vous surprendre. Laissons-nous surprendre, laissons la parole de Dieu nous atteindre. Ne soyons pas fermés à ce que l'Esprit est en train de dire aux églises à travers Jésus et à travers Marc. C'est un long texte, mais il tient bien ensemble. Je vais le lire dans son entièreté. Lorsque Jésus sortit du temple, un de ses disciples lui dit « Maître, regarde, quelle pierre, quelle construction !» Jésus lui répondit « Vois-tu cette grande construction ? Il ne restera pas pierre sur pierre. Tout sera détruit. » Puis il s'assit sur le mont des Oliviers, en face du temple. Pierre, Jacques, Jean et André lui posèrent en privé cette question. « Dis-nous, quand cela arrivera-t-il ? Et à quel signe reconnaîtra-t-on que tous ces événements vont s'accomplir ?» Jésus se mit alors à leur dire « Faites bien attention que personne ne vous égare. En effet, beaucoup viendront sous mon nom et diront « C'est moi !» Et ils tromperont beaucoup de gens. Quand vous entendrez parler de guerre et de menaces de guerre, ne vous laissez pas effrayer, car il faut que ces choses arrivent. Cependant, ce ne sera pas encore la fin. Une nation se dressera contre une nation, et un royaume contre un royaume. En divers endroits, il y aura des tremblements de terre, il y aura des famines. Ce sera le commencement des douleurs. Faites attention à vous-même. On vous livrera aux tribunaux, et vous serez battus dans les synagogues. Vous comparaîtrez devant les gouverneurs et devant des rois à cause de moi, pour leur apporter votre témoignage. Il faut d'abord que la bonne nouvelle soit proclamée à toutes les nations. Quand on vous emmènera pour vous faire arrêter, ne vous inquiétez pas d'avance de ce que vous direz, mais dites ce que vous sera donné au moment même. En effet, ce n'est pas vous qui parlerez, mais l'Esprit Saint. Le frère livrera son frère à la mort, et le père son enfant. Les enfants se soulèveront contre leurs parents, et les feront mourir. Vous serez détestés de tous à cause de mon nom, mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Lorsque vous verrez l'abominable dévastation établie là où elle ne doit pas être, que celui qui lit fasse attention, alors que ceux qui seront en Judée s'enfuient dans les montagnes, que celui qui sera sur le toit ne descende pas et n'entre pas dans sa maison pour en prendre quelque chose, et que celui qui sera dans les champs ne retourne pas en arrière pour prendre son manteau. Malheur aux femmes qui seront enceintes et à celles qui allaiteront durant ces jours-là. Priez pour que cela n'arrive pas en hiver, car ces jours-là, la détresse sera telle qu'elle n'y en a pas eu de pareil depuis le commencement du monde que Dieu a créé jusqu'à présent et qui n'en aura jamais plus. Et si le Seigneur n'avait pas abrégé ces jours, personne ne serait sauvé, mais il les a abrégés à cause des élus, de ceux qu'il a choisis. Si quelqu'un vous dit alors « Le Messie est ici » ou « Il est là », ne le croyez pas, car de prétendus messies et de prétendus prophètes surgiront. Ils feront des prodiges et des signes miraculeux pour tromper, si c'était possible, même ceux qui ont été choisis. Soyez sur vos gardes, je vous ai tout annoncé d'avance. Mais, ces jours-là, après ce temps de détresse, le soleil s'obscurcira, la lune ne donnera plus sa lumière, les étoiles tomberont du ciel, les puissances célestes seront ébranlées. Alors on verra le Fils de l'homme venir sur les nuées avec beaucoup de puissance et de gloire. Il enverra ses anges et rassemblera ceux qu'il a choisis des quatre coins du monde, de l'extrémité de la terre jusqu'à l'extrémité du ciel. Tirez instruction de la parabole du figuier. Dès que ses branches deviennent tendres et que les feuilles poussent, vous savez que l'été est proche. De même, quand vous verrez ces choses arriver, sachez que le Fils de l'homme est proche, qu'il est à la porte. Je vous le dis en vérité, cette génération ne passera pas avant que tout cela n'arrive. Le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront pas. Quant au jour et à l'heure, personne ne les connaît, pas même les anges dans le ciel, ni le Fils, le Père seul les connaît. Faites bien attention, restez en éveil et priez, car vous ignorez quand ce temps viendra. Cela se passera comme pour un homme qui part en voyage. Il laisse sa maison, remet l'autorité à ses serviteurs, indique à chacun son travail et ordonne au portier de rester éveillé. Restez donc vigilants, car vous ne savez pas quand viendra le maître de la maison, le soir ou au milieu de la nuit ou au chant du coq ou le matin, qu'il ne vous trouve pas endormi quand il arrivera tout à coup. Ce que je vous dis, je le dis à tous, restez vigilants. Et étrange, n'est-ce pas, que Jésus commence sa réponse, non avec un signe, mais avec un avertissement. Il avait dit que le temple allait être détruit, ce temple si beau, si permanent, qui était bien aimé, bien apprécié par tous les juifs, les croyants. Et là, il parle du bâtiment. Et ce texte est si facile à comprendre, beaucoup plus facile en tout cas que l'Apocalypse, parce qu'il n'y a pas de langage symbolique dans ce texte. Tout est littéral jusqu'aux paraboles des versets 28 et à la fin du chapitre. Mais dans le chapitre, tout est clair dans un langage réel. Il n'y a pas de métaphore. Le temple va être détruit, dit-il. Et les disciples demandent alors quel va être le signe que cela va se passer. Et la première chose qu'il dit, au lieu de donner un signe, c'est « ne vous laissez pas égarer », verset 4. Des signes peuvent être trompeurs. On peut penser quelque chose d'un signe quand en fait ça ne l'est pas. D'ailleurs, certaines personnes peuvent faire des signes, mais ce n'est pas Dieu qui envoie ce signe. C'est une contrefaçon. On le sait parce que au verset 22, il est dit « De prétendus messies et de prétendus prophètes surgiront, ils feront des prodiges et des signes miraculeux pour tromper. » Alors, nous ne croyons pas en Jésus parce qu'il était une figure messianique. Des figures messianiques, il y en avait plein. Mais nous croyons qu'il était une figure messianique différente des autres. Il était réellement convaincant. Il était réellement puissant et il était ressuscité. Alors, eux tromperont beaucoup de gens. Verset 6, ils viendront et ils tromperont beaucoup de gens. Mais nous ne sommes pas trompés. Alors, il y a deux leçons principales qui vont se dégager de notre lecture d'aujourd'hui. La première est plus longue que la deuxième, mais la voici. Ne cédez pas à la panique, même quand le retour approche. Ne cédez pas à la panique. Même quand le retour approche. Il va décrire ce qui va se passer. D'abord, il dit, vous entendrez des guerres et des menaces de guerre, mais ne vous laissez pas effrayer, verset 7. Les chrétiens ne doivent pas être effrayés, ni égarés par des faux messies, parce qu'on dit, voilà, est-ce qu'il est là? Est-ce qu'il est déjà venu? Est-ce que c'est lui? Ni effrayés en voyant ce qui se passe dans le monde. Effrayés par les infos. Est-ce que vous êtes effrayés le soir quand vous regardez les infos? Il faut que ces choses arrivent, dit-il. Cependant, ce n'est pas la fin. Verset 7. Plutôt, c'est le commencement. Verset 8. Je crois que cette première partie de ce qu'il va donner comme explication aux quatre disciples touche en fait à la période avant la destruction du temple. Il est en train de répondre à leurs questions de ça. Eux sont en train de parler de ça et Jésus aussi est en train de parler de ça. Il va décrire ce qui va se passer depuis l'an 33 où il est quand il parle, jusqu'à l'an 70. Qu'est-ce qui va caractériser cette période? Eh bien, il y aura des luttes entre les nations. Et on sait que cela s'est passé un peu partout dans l'Empire romain pendant ces 30 et quelques années. Tremblement de terre, il y en a eu aussi. La famine, il annonce. Eh bien, vous souvenez-vous que dans le livre des Actes, il y a eu cette famine qui était annoncée, et il y a eu un effort d'entraide internationale entre chrétiens, le premier effort international d'entraide, où ils ont envoyé des fonds pour soutenir les chrétiens à Jérusalem et en Judée qui souffraient de la famine. Vous vous souvenez de cela? Ça s'est accompli comme Jésus l'a annoncé. Ce sont des choses qui sont arrivées depuis, bien entendu, mais ce sont aussi des choses qui se sont produites à l'époque. Des choses de la vie humaine, des choses de la vie courante. Mais ça ne devrait pas nous faire penser, ah voilà, le Seigneur vient. Non, nous ne devons pas interpréter toute chose comme un signe. Et Jésus est en train de dire, ça va arriver. Mais ce n'est pas le signe de la fin. Plutôt, verset 9, faites attention à vous-même, dit Jésus aux disciples. Parce qu'ils seront amenés à se défendre devant des synagogues, devant des gouverneurs, devant des rois même. Et le livre des Actes nous illustre cela, comment il y a eu des autorités devant qui ils devaient se défendre. Il faut d'abord que la bonne nouvelle soit annoncée à toutes les nations. À la Pentecôte, dans le livre des Actes, on voit que des gens sont réunis de toutes les nations ensemble au même endroit. Et qu'est-ce qu'ils entendent? Ils entendent la bonne nouvelle. Jésus est ressuscité, il est le Christ, le Messie. Et que par lui, le Saint-Esprit accorde le pardon des péchés. Ils reçoivent le Saint-Esprit et ils reçoivent le pardon des péchés comme Dieu l'a promis. Et puis bien sûr, cela continue dans le livre des Actes. La bonne nouvelle se répand à l'Est, mais aussi au Sud, vers l'Afrique, au nord, en Galatie, et puis à l'ouest, à Rome. C'était un changement vraiment radical, parce que maintenant, cette bonne nouvelle n'allait pas rester seulement en Israël. La bonne nouvelle allait être prêchée aux nations, aux étrangers, pour qu'eux aussi puissent être sauvés. Mais mettez-vous à la place de Pierre, et de Jacques, et d'André, en train d'écouter ça, à dire, mais nous, on doit expliquer ça. Nous, on doit parler devant des gouverneurs. Nous, on doit annoncer la bonne nouvelle aux nations. C'est difficile d'encaisser cela. Comment est-ce qu'on va parler devant la Sanhédrin? Alors il leur dit, ne vous inquiétez pas, le Saint-Esprit va vous aider. Le Saint-Esprit va parler et vous saurez quoi dire. Et c'est exactement ce qui s'est passé. C'est formidable de voir comment ces hommes simples, sans grande éducation, ont pu défendre leur foi en Jésus-Christ et dire qu'il est réellement le Messie, avec une telle conviction que ça a bouleversé le monde. Bien sûr, ce n'est pas une excuse pour ceux qui ont le temps de préparer une prédication ou un enseignement, de dire, ah bon, voilà, le Saint-Esprit va me dire ce que je dois faire, je ne dois pas préparer. Mais non, prier et préparer cela convenablement. Mais si les disciples se trouvaient subitement arrêtés par quelqu'un et qu'on leur disait, alors, pourquoi vous êtes là? Qu'est-ce que vous faites? Effectivement, le Saint-Esprit va les aider pour pouvoir se défendre. Ils sauraient quoi dire. Jésus annonce aussi l'opposition parfois de leur famille, qui serait mortelle aux croyants. Verset 12 parle de la mort. Ils vont les faire mourir. Toutefois, verset 13, Jésus assure, celui qui persévère jusqu'à la fin sera sauvé. Et là, je pense qu'il y a quelque chose pour nous. Ne pourrions-nous pas être découragés par la tournure des événements? Ne pourrions-nous pas être égarés en entendant qu'il y a un faux Messie, ou effrayé par une catastrophe naturelle ou une guerre? Il ne faut pas perdre notre courage. Il ne faut surtout pas perdre notre foi en Christ, le vrai Jésus, le vrai Messie. Nous devons au contraire persévérer jusqu'au bout pour être sauvés. Mais la persévérance, ça veut dire aussi que nous devons continuer dans notre foi. Dans un sens, ce que tu croyais il y a 10 ans, ce n'est pas important. Ce qui est important, c'est de croire encore aujourd'hui. Tu croyais il y a 5 ans, ou il y a 10 ans, il y a 20 ans, c'est bien. Mais qu'est-ce que tu crois aujourd'hui? Est-ce que tu crois encore aujourd'hui? Est-ce que tu vas arriver au bout, jusqu'au bout dans ta foi? Il y a à Scarbeck une course tous les ans, et on peut y participer. Il y a un parcours de 5 km, et puis il y a un parcours de 10 km qui fait en fait deux fois la même boucle. Et certains s'inscrivent pour cela, et puis font 10 km ou 5 km. On court avec des centaines de personnes. Ce n'est pas des professionnels, c'est juste n'importe qui veut aller courir, peut courir. Et alors ce qui est chouette, c'est qu'à la fin, après la course, le lendemain, on peut voir les résultats. Non seulement notre chronomètre, notre chrono, notre temps, mais aussi comment on compare un petit peu avec les autres, dans chaque catégorie, hommes, femmes, et puis les différentes catégories d'âge. Parfois, on voit que quelqu'un qui est plus âgé que soi a couru plus vite que soi. C'est un peu gênant, ça. Mais ça arrive. Parfois, on voit aussi des petits jeunes qui ont couru beaucoup plus vite. Ça, c'est normal. Mais après, on voit certains qui n'ont pas terminé la course. Ils s'étaient inscrits, ils sont venus, ils ont commencé, mais peut-être que c'était plus long qu'ils le pensaient. 5 km, 10 km. Ah, peut-être qu'ils se sont essoufflés, ou ils ont été blessés. Ouf, ils n'avaient pas envie. Ils se sont dit, on va juste arrêter, on va aller boire un verre. En fait, la Bible compare la foi, notre foi chrétienne, à une course, la course de la foi. Et vous savez que le prix n'est pas donné pour celui qui court le plus vite, qui arrive le plus vite à la fin de sa vie. Le prix est donné à celui qui va jusqu'au bout. Celui qui arrive au bout, étant toujours un croyant, une croyante. Il y a un prix pour toute personne qui va jusqu'au bout. Mais il faut arriver jusqu'au bout. Celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Alors quand Jésus parle ici, il n'est pas en train de promettre une vie facile pour ceux qui persévèrent. Il n'y a pas moyen d'éviter la persécution. Même en étant vigilant, il ne dit pas, verset 9, remarquez, « Faites attention à vous-même, sinon on vous livrera aux tribunaux. » Il est en train de dire, « Vous allez souffrir. Vous pourriez même mourir, selon le verset 12. » Et effectivement, Jacques, qui est là, qui entend cela, dans Acte 12, le roi Hérode a fait mourir Jacques, le frère de Jean. Pierre sera aussi plus tard tué en martyr. Jean sera exilé sur l'île de Patmos pour son témoignage. On ne sait pas ce qui s'est passé pour André, mais peut-être bien qu'il lui aussi est mort pour son témoignage. Mais l'appel de Jésus n'est pas donc « préservez votre vie et vous serez sauvés ». C'est persévérer à tout prix, jusqu'à la fin, pour être sauvés. Vous voyez la différence? De quoi est-ce que nous allons être sauvés finalement? Pas de la mort, mais de l'enfer. De passer à travers la mort dans la présence de notre Seigneur. C'est de ça qu'il parle. Alors verset 14, Jésus continue. « Lorsque vous verrez l'abominable dévastation dont a parlé le prophète Daniel, établie là où elle ne doit pas être, que celui qui lit fasse attention, alors que ceux qui seront en Judée s'enfuient dans les montagnes. » Alors la petite phrase dont a parlé le prophète Daniel, en fait, a été insérée dans les manuscrits plus tardifs, ce n'est pas dans les manuscrits les plus tôt. Pourquoi ? Ben, évidemment, l'abominable dévastation est une phrase que Daniel a utilisée. Mais il parle de quelque chose qui s'est passé avant Jésus-Christ. Et Jésus réutilise l'expression « l'abominable dévastation » pour parler d'autre chose qui va venir après. Et Marc, qui écrit ces mots, glisse le mot « que celui qui lit fasse attention », que le lecteur fasse attention. C'est vraiment pour eux, les premiers lecteurs. Il est en train de parler de ceux qui seraient en Judée. Vous voyez là, verset 14, « en Judée, à Jérusalem ». Matthieu 24, qui est un texte parallèle, parle du lieu saint. On est toujours en train de parler du temple du premier siècle. Là, ça se précise. Et il dit « fouillez vers les montagnes. Restez dans les champs, en dehors de la ville. N'entrez pas dans la ville. Si vous êtes sur le toit et les toits étaient plats, alors courez sur les toits plats, sautez, sortez de la ville. » Difficile pour les mamans enceintes d'aller vite, mais l'idée de prendre la fuite, de sortir de Jérusalem. Parce que pendant 4 ans, à partir de l'an 66, Jérusalem serait assiégée. Ce qui s'est passé, l'histoire est claire, c'est qu'en l'an 66, il y a eu une révolte de la part des Juifs contre l'autorité romaine. Et donc, les armées de Rome sont venues. Ce n'était pas constant pendant 4 ans, mais c'était à différents moments, il y avait des vagues d'attaques de Rome. D'abord, l'armée romaine avait été repoussée, et puis l'armée qui était plus nombreuse a établi un siège autour de la ville de Jérusalem. C'était une période affreuse. D'abord parce que dans la révolte, différentes personnes à l'intérieur de la ville voulaient prendre le pouvoir. Les zélotes tuaient d'autres juifs. Il y avait une guerre civile à l'intérieur de la ville. Des milliers de gens ont été tués, les uns par les autres. Ensuite, à cause de cet encerclement des armées romaines, il y a eu une famine qui s'est établie. Il n'y avait pas de nourriture qui entrait dans la ville. C'était affreux, les gens mouraient de faim dans les maisons. Et ensuite, quand l'armée a pu entrer en l'an 70, c'était le massacre. Les gens étaient trop faibles pour se battre. 1 million de Juifs ont été tués à Jérusalem à cette époque-là. Et voici ce que raconte Joseph, qui était un historien juif, qui a combattu du côté des Romains. Il a écrit l'histoire de ce qui s'est passé. Cela est sorti en 75, et il écrit qu'en l'an 66, écoutez bien, à Pâques, en l'an 66, c'est l'année de la révolte, n'est-ce pas ? À minuit à Pâques, une grande porte à l'est du temple, une très grande porte qui était verrouillée d'habitude, s'est ouverte. Et les gardiens du temple sont allés le rapporter au capitaine qui a réussi avec peine à fermer cette porte. Généralement, elle pouvait résister à 20 hommes, cette porte, tellement elle était grande et verrouillée. Et Joseph écrit, « Pour les non-initiés, cela semblait un signe favorable. Ils supposaient que Dieu ouvrait la porte aux bénédictions. Mais pour les sages, ils ont compris que la sécurité du temple était en train de se dissoudre, que l'ouverture de la porte était un cadeau à l'ennemi, et ils interprétèrent le signe comme indiquant la dévastation à venir. » C'est très marquant de voir cela. Et il rapporte aussi que lorsque le commandant de l'armée romaine est entré dans le lieu saint, il est entré par cette porte de l'Est. C'était un signe, il y en avait eu d'autres, mais c'était un signe. Mais vous voyez comme le signe a été mal compris. Certains ont pensé, ah oui, c'est un bon signe. D'autres ont dit non, c'est un mauvais signe. Les chrétiens, cependant, en basant leur foi sur ce que Jésus avait dit, ont fui la ville. À un moment où les Romains le permettaient, ils ont fui la ville pour aller à Pella, en Transjordanie, et là, ils ont survécu. Tandis que les Juifs ont dit non, c'est notre capitale, on reste, on se défend, on va rester ici, Dieu est avec nous. Les chrétiens ont fui. Vous voyez la pertinence de l'enseignement de Jésus pour ceux qui l'écoutaient. Lui allait mourir crucifié, mais eux ne devaient pas mourir sous le régime romain. Mais, après tout ce qu'il a décrit dans ses mots, de cette grande détresse qui allait s'abattre sur la ville, verset 21, ce n'est pas le retour de Christ. Si quelqu'un vous dit alors le Messie est ici ou il est là, ne le croyez pas. Ce n'est pas le moment. Ce qui était annoncé en lien avec la destruction du Temple, qui était inconcevable à l'époque, c'était que pour cette période-là. Et c'est ensuite qu'il vient à notre sujet de son retour. Verset 24. Mais ces jours-là, après ce temps de détresse, le soleil s'obscurcira, la lune ne donnera plus sa lumière, les étoiles tomberont du ciel, les puissances célestes seront ébranlées. Alors on verra le Fils de l'homme venir sur les nuées avec beaucoup de puissance et de gloire. Nous ne sommes pas dans un registre symbolique, je le rappelle. Il est en train de parler de choses littérales. Alors, il y a eu des signes dans le ciel autour de l'an 70, mais rien comme ceci. Le soleil qui ne brille plus, les étoiles qui tombent, ça, c'est la fin. Et là, ils verront le Fils de l'homme. Littéralement, au verset 26, c'est « ils verront » et plus « vous verrez ». Vous avez dû, il a dit « vous serez là, vous devez faire ceci, vous devez faire cela ». Mais au verset 26, il dit « ils verront ». C'est quelqu'un d'autre, une autre génération. On avait déjà dit que le retour de Jésus sera visible. On verra le Fils de l'homme venir sur les nuées. Mais ici, c'est étoffé en disant « ce sera avec beaucoup de gloire et de puissance ». Qu'est-ce que vous considérez comme puissant aujourd'hui? Les grands de ce monde? Les grands chefs? Ouais, ils sont puissants, mais Jésus est plus puissant. Qu'est-ce que vous considérez comme glorieux aujourd'hui? Votre pays? Votre club? Votre carrière? Une femme? Jésus est plus glorieux. C'est le même déroulement ici qu'en Apocalypse 6, je signale, c'est le même déroulement, les guerres et les conflits, la famine, les martyrs, puis le soleil et la lune s'obscurcissent et les étoiles tombent à terre. Alors que fera Jésus? Quand il vient, il rassemblera ceux qu'il a choisis. Que nous soyons aux quatre coins du monde, ou au ciel même, aux extrémités du ciel, il va les prendre et on sera ensemble. Et nous avons cette espérance solide. Et vous savez quoi? Le fait que cela s'est passé en l'an 70, comme Jésus l'a prédit, nous donne beaucoup de confiance pour ce qui ne s'est pas encore produit, le retour de Jésus. Parce qu'il a été tellement clair, et ça s'est vraiment passé comme il l'a décrit, on a beaucoup de confiance pour la partie qui doit encore venir, le retour de Jésus. Ne soyons pas de ceux qui abandonnent la foi ou qui remplacent Christ par un pseudo-messie ou un pseudo-prophète. Non, nous voulons rester vigilants. Et c'est la deuxième partie. Ne soyez pas endormis, même quand le retour tarde. On avait dit que le retour approche, et bien entendu, nous avançons dans l'histoire vers le moment où Jésus reviendra. Et ne soyons pas dans la panique. Mais dans la fin de ce texte, je pense qu'il veut aussi nous avertir de ne pas être endormis sur le plan spirituel quand le retour tarde, parce que Jésus revient beaucoup plus tard que l'an 70. Il termine le chapitre avec deux paraboles, verset 28, c'est celle du figuier, et puis il y aura celle des serviteurs de la maison. Et en fait, ces deux paraboles enseignent deux choses différentes. Il veut enseigner d'abord que l'on sait certaines choses. Quand vous verrez ces choses arriver, il parle des persécutions, il parle de l'attaque contre le temple de Jérusalem, vous saurez que le Fils de l'homme est proche, verset 29. Il n'est pas encore revenu, mais il est proche. Et là, il dit, verset 29, « Sachez ou vous savez. » Là, il donne un timing. Quand est-ce que ça va se passer? Cette génération, verset 30, la génération de son temps, ne passera pas avant que cela n'arrive. Une génération dans la Bible, c'est 40 ans. Et donc, on fait les maths, on est en 33, avant 73, cela s'est réalisé, ce qu'il avait annoncé. Par contre, l'autre parabole concerne des choses qu'on ne connaît pas, verset 32. Alors là, personne ne connaît le jour et l'heure du retour de Christ. Personne n'est informé. Le Fils de Dieu a choisi de ne pas savoir la date pendant qu'il était sur terre. Vous avez beau être informé, mais vous ne savez pas quand ça viendra. Alors j'ai une bonne nouvelle pour vous, si vous pensez que tout ça était un peu compliqué et que vous n'arrivez pas vraiment à bien maîtriser cela. Bonne nouvelle pour vous. Vous savez, on ne va pas être sauvé par notre connaissance des choses à venir. On ne va pas être plus sauvé ou moins sauvé parce que vous avez fait des études sur le retour de Christ. Pour le dire autrement, quelqu'un qui ne sait rien du retour de Christ peut quand même être sauvé simplement parce qu'il a mis sa foi en Jésus. C'est le principal. Du moment que tu mets ta confiance en Jésus pour te sauver, que tes péchés sont pardonnés, que ta foi est en lui, eh bien, ta culpabilité est enlevée, tu es pardonné, tu as la vie éternelle. Dieu s'occupe du reste. Néanmoins, ce qu'il nous dit, ce qu'il nous informe, ce qu'il nous communique, c'est pour que nous soyons attentifs, éveillés dans notre foi. Verset 33. Faites bien attention, restez en éveil et priez, car vous ignorez quand ce temps viendra. Ne soyez pas endormis. Là, elle parle de léthargie spirituelle. Les gens vont dire alors, le retour de Jésus, c'est pour quand? Eh, ça fait 2000 ans, presque, il n'est pas revenu. Hein. Mais nous y croyons quand même. Et nous voulons être fidèles. Et nous voulons prier parce que nous ne voulons pas être égarés par le péché. Nous ne voulons pas être égarés par des faux messies qui viendraient. Nous voulons être prêts pour le retour du Seigneur. Ça pourrait être cette année, mais ça pourrait être dans 10 ans, ou ça pourrait être dans 100 ans. On verra bien. Les choses pourraient même aller mieux avant qu'elles n'aillent moins bien avant son retour. Alors, mes amis, voilà où nous en sommes. Mais quelqu'un pourrait dire à Paul, ça c'est décevant, t'as pas donné beaucoup de signes du retour de Jésus. Finalement, est-ce qu'il n'y a que ça? On doit attendre que le soleil s'obscurcisse et que les étoiles tombent, alors on saura que Jésus vient. Mais en fait, il y a 3 choses au programme. Je vais juste terminer rapidement avec ça. 3 choses au programme avant le retour du Seigneur que je n'ai pas évoquées parce qu'ils ne sont pas en Marc 13. Mais rapidement, pour être complet, je vais vous les annoncer. Selon 2 Pierre 3, la raison que cela ne s'est pas passé, que Jésus n'est pas encore revenu, est que Dieu est patient et qu'il veut que tout le monde puisse se repentir. Ça veut dire que l'évangélisation du monde qui a déjà commencé à la Pentecôte, cette évangélisation continue aujourd'hui. Il faut que ça avance. Si aujourd'hui Jésus n'est pas encore de retour, c'est parce que Dieu veut sauver aujourd'hui des gens qui se tournent vers lui dans la repentance. Ça se passe. Jusqu'à ce que quand Dieu ait décidé qu'il a sauvé assez de monde. Et puis Jésus viendra. Aussi, selon 2 Thessaloniciens 2, il y a un homme marqué ou caractérisé par le péché et par la recherche de l'adoration. Il est tout le contraire de Christ, mais il veut qu'on l'adore. Et beaucoup de gens vont l'adorer. Il sera connu par le monde et il sera un adversaire féroce de l'Église. Là encore, on n'est pas dans l'Apocalypse, d'accord ? On n'est pas dans des textes symboliques. De Thessaloniciens 3, c'est une lettre, c'est écrite de manière très littérale. Il viendra quelqu'un, et lui, il dit, sera anéanti par le retour du Seigneur. Ça veut dire qu'il viendra juste avant que Jésus ne revienne. On est attentif pour voir quand apparaît cet homme qui est pire que tous les autres. Et puis, selon Luc 21, texte parallèle à celui-ci aussi, Luc 21. Jésus viendra après un cataclysme sur terre, et voici ce qu'est écrit Luc, ce que Jésus a dit. Les nations seront dans l'angoisse, épouvantées par le bruit de la mer et des vagues. Des hommes s'évanouiront de terreur dans l'attente de ce qui surviendra sur la terre, car les puissances célestes seront ébranlés. Ça ne s'est pas encore produit, n'est-ce pas, ce cataclysme où les gens sont en train d'être épouvantés, mais on peut imaginer que les gens soient épouvantés par la mer et les vagues et ce qui se passe sur la terre, et pas seulement dans les cieux. Voilà des choses au programme qui seront des signes précurseurs du retour de Jésus. Alors ne soyons pas ignorants, mais soyons vigilants, et surtout soyons prêts. Prions. Seigneur Jésus, tu as dit « Le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront pas ». Heureusement, Seigneur, ces paroles sont toujours vraies. Elles ne sont pas périmées, elles ne sont pas démodées, elles sont toujours d'actualité. Merci pour la confirmation dans l'histoire humaine de ce que Jésus annonçait. Cela s'est réalisé. Merci qu'il est celui qui dit toujours la vérité parce qu'il parle de ta part. Et nous voulons prier, Seigneur, que tu puisses nous guider à travers ces moments, que ce soit longtemps et que nous devions attendre, ou que ce soit bientôt et que nous devons résister à la peur et ne pas être effrayés ou affolés. Que nous puissions être constants dans notre attachement à toi, constants dans la fidélité, dans un éveil spirituel. Ne nous laisse pas égarer dans le péché, mais que nous puissions rester proches de toi pour la gloire de Jésus.